France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Il est 19h23, je l'ai dit. Ils ont entre 16 et 25 ans. Ils jugent l'avenir effrayant à 75%. Ils pensent que l'humanité est condamnée, y compris en France. Ils sont 48% à le dire. Ils hésitent à devenir parents dans un monde promis à la destruction. Et pour certains, ça les réveille la nuit. Ce sont des échos anxieux, climato-déprimés, ceux que la pollution, destruction de la planète, disparition des espèces, dérèglement du climat rendent dépressifs, stressés. Hier, une enquête publiée donc par le Lancet a fait beaucoup parler d'elle. C'est la plus grande enquête sur le sujet. 10 000 jeunes ont été interrogés dans 10 pays bien différents. Des pays au pouvoir d'achat, aux conditions de vie, aux risques encourus face à la dégradation de l'environnement, bien différents. La France, le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la Finlande, mais aussi le Brésil, l'Inde, les Philippines. Il en ressort que les jeunes se sentent impuissants face à la crise climatique, mais aussi trahis. On ne découvre pas l'éco-anxiété, hein, mais on voit bien là qu'elle est étalée devant nous. Il va sans dire que c'est plus grave dans des pays directement impactés et déjà touchés, comme les Philippines, l'Inde ou le Brésil, que dans nos pays à nous. Mais vous noterez par exemple que les jeunes portugais qui ont subi des feux de forêt importants cet été ont été, et les étés précédents bien sûr, étaient très hauts dans les chiffres d'éco-anxieux. Alors on peut bien sûr discuter du bien fondé de l'étude et de la véracité ou la variété, on va dire, de cette anxiété. Mais plus loin, elle nous interroge sur le trouble de ceux qui sentent qu'on n'a pas pris en compte leur destin futur. Ceux qui ont le sentiment de sonner l'alarme tous les jours dans le vide, sans être écoutés, mais devront, eux, faire face à une crise climatique toute leur vie. Les éco-anxieux, les climato-déprimés, on en parle ce soir dans le Téléphone Sonne. Et soyez les bienvenus.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Le premier auditeur, c'est vous, Zoltuan. Bonsoir et soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Fabienne et bonjour à toutes vos invités. Ben, moi, si vous voulez, j'ai un peu plus de 20 ans, mais je suis donc pas seulement éco-anxieux, mais aussi éco-révolté, notamment par le fait que les mesures de la Convention citoyenne n'ont pas été prises en compte, la plupart, alors qu'il y a une urgence à les prendre en compte pour que justement le climat soit moins déréglé et que la biodiversité n'arrête de s'effondre. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on agisse, on est en urgence absolue. Et donc, par le passé, pour abaisser mon ardeur anxieuse, si je puis dire, je me suis engagé, c'est-à-dire que j'ai milité et je continue et j'ai organisé des marches à Paris pour interdire les pesticides et on était reçu en délégation au ministère de l'écologie, mais malheureusement, bon, on savait qu'on n'était pas écouté, la sortie, on n'était pas écouté évidemment, mais au moins, bon, on agissait, on continue et là, dimanche, on fait un rassemblement près de l'ambassade du Brésil pour sauver l'Amazonie. Donc, c'est de 15h à 17h près de l'ambassade du Brésil dimanche à Paris.
Eh ben, vous avez passé le message. Joltuan, je vais vous poser la question quand même parce que je la poserai peut-être à beaucoup d'auditeurs ce soir. Malgré tout, est-ce que vous votez toujours, par exemple? Est-ce que vous avez toujours confiance dans ce processus-là? Est-ce que les institutions sont toujours avec vous, selon vous, ou pas du tout? Donc, est-ce que vous votez, en fait?
Ben, vous touchez du doigt un gros problème. Oui, c'est vrai que l'abstention est énorme. Ça aussi, ça rend éco-anxieux. Enfin, je veux dire, ça rend anxieux et puis un peu désespéré.
Vous votez ou pas, Zoltuan, pardon?
Oui, ben moi, je compte voter cette fois-ci aux élections. D'accord. Mais par contre, souvent, il m'arrivait de ne pas voter parce que ceux qui se présentaient, on voit bien depuis des décennies, ne tiennent pas leurs promesses. Donc là, on espère qu'ils vont les tenir, notamment peut-être Madame Sandrine Rousseau.
On verra bien. Alors, attendez,
je pense voter écologiste, en fait.
Voilà, ça, j'ai bien compris de ce côté. Non, mais ça, j'ai bien compris de ce côté-là. Après, essayons de rester serein sur les appartenances politiques. Ça nous éviterait d'avoir à citer tous les noms à chaque fois pour que chacun arrive au même niveau. Je vous remercie beaucoup, Zoltuan, pour cette jolie entrée en matière pour parler ensemble jusqu'à 20h. Camille Pellet avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du mouvement Youth for Climate en France. Bonsoir Alice Desbiol, pardonnez-moi.
Bonsoir.
Vous êtes médecin de santé publique, vous avez écrit notamment l'éco-anxiété, c'était publié chez Fayard. Anne Muxel est avec nous également. Bonsoir Madame Muxel.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche en sociologie, en sciences politiques au CNRS et spécialiste notamment des jeunes. C'est vers vous que je vais me tourner, Camille Pellet d'abord. Alors il a un petit peu plus que votre âge, notre ami Zoltuan, mais effectivement, après tout, on n'est pas obligé d'être jeune pour être éco-anxieux, mais néanmoins c'est un peu une marque chez vous dans votre âge à vous et on peut comprendre pourquoi. Vous reconnaissez quand même dans ce que dit Zoltuan ou pas? Est-ce que vous vous sentez vous dans ce genre d'état d'esprit-là?
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'éco-anxiété, elle ne touche pas seulement que les jeunes, elle touche tout le monde y pense, sauf qu'on nous empêche d'y penser, on nous empêche de se sentir plus serein. Et justement,
là, on vous empêche pas d'y penser, peut-être de vous sentir plus serein.
Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous empêche vraiment d'aller vers un avenir plus serein, en tout cas.
Je vous pose la question à vous parce qu'elle viendra au fur et à mesure. Du coup, pour vous, ça veut dire... rappelez-moi votre âge, s'il vous plaît, Camille.
J'ai 19 ans.
19 ans, d'accord. Donc, vous êtes en âge de voter. Vous y allez pas. Est-ce que vous dites ça de toute façon? On a vu s'afficher là tout à l'heure, puisqu'il y a les télés dans le studio, les candidats à la primaire écolo. Mmh. Est-ce que vous les regardez? Ou est-ce que vous avez même fini de regarder du côté des institutions et de tous ces gens-là?
Bah, évidemment que je regarde, je m'intéresse un minimum. Parce que je trouve que c'est intéressant de s'intéresser aux candidats qui rentrent en campagne, mais je ne voterai pas. Et je pense que c'est la majeure partie des jeunes aujourd'hui qui n'ont plus confiance en ce système. Ce discours, il est répété et répété. Et je pense qu'on est à un stade où il faut se déconnecter et faire un pas de côté, c'est-à-dire aller vers les luttes locales, par exemple. Enfin, maintenant, on voit de plus en plus de jeunes dans les ZAD. Après, évidemment, ça reste une certaine jeunesse élitiste. Enfin, moi-même, je fais des études, donc évidemment...
Tant mieux pour vous, hein, par ailleurs. Non, mais c'est vrai, à un moment...
Oui, évidemment, tant mieux pour moi. Mais je pense que même mes études, moi, quand je rentre dans les salles de classe, j'ai l'impression d'être hors sol. J'ai l'impression d'apprendre des choses qui, évidemment, sont intéressantes, mais qui, concrètement, ne m'aideront pas à agir pour le vivant.
Je posais la question à Camille, à Alice Desbiol, parce que évidemment que si on pose la question à Camille et qu'on pose la question, c'était l'exemple qu'avait d'ailleurs y compris dans l'étude récemment, si on pose la question à une jeune femme aux Philippines qui a l'impression tous les jours que sa chambre va passer sous l'eau parce qu'elle sait que la montée des eaux est réellement proche et qu'elle peut détruire son île, évidemment on n'a pas la même réponse. Comment on la définit l'éco-anxiété? Est-ce que ça se définit d'abord? Est-ce que c'est reconnu même, en fait, désormais réellement étudié?
Alors, effectivement, c'est un sujet qui est de plus en plus étudié, c'est un concept qui est nouveau, ça ne veut pas dire que cette sensibilité-là au monde est quelque chose de nouveau ou de récent, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps.
On a mis des mots dessus,
C'est juste que là, on a mis des mots sur ces mots-là, et finalement, l'éco-anxiété, ça résulte d'une compréhension globale d'un certain péril dans lequel le monde, nos sociétés humaines se trouvent et se trouveront. Et en ça, il y a tout un panel émotionnel... relatif à l'éco-anxiété qui est de manière assez globale communément partagée par la plupart des personnes qui ont cette sensibilité-là, et ça va de la tristesse à la colère en passant par l'impuissance, voire même l'impression d'avoir été floué, qui est un sentiment qui est très fort, notamment chez les jeunes et les adolescents.
Et c'est ça qui fait la différence, hein, d'ailleurs, parce que y compris ces Zoltuan tout à l'heure, qui je ne sais pas quel âge il avait, mais qui était déjà un adulte, il y a le monde que nous faisons en disant c'est quand même vraiment triste parce qu'on prend pas en compte l'environnement. Et puis il y a le monde des jeunes qui arrivent derrière, qui vont devoir faire avec, en fait. Est-ce que c'est ça aussi qui marque la réelle différence? On va être obligé de faire avec ce que vous nous laissez, et voilà ce que vous nous laissez.
Alors effectivement, c'est pour ça qu'il y a un continuum émotionnel qui peut être un petit peu différent entre effectivement, on va dire, les jeunes, les ados, avec peut-être plus de colère, de rancœur, voire l'impression d'avoir été floué et trahi par les adultes qui sont censés les protéger. Là où les adultes vont être peut-être plus parfois dans un sentiment de soit de dissonance cognitive, donc c'est-à-dire un décalage entre une certaine forme de préoccupation et finalement leurs actions au quotidien et leurs décisions, voire aussi parfois un petit peu de culpabilité qui peut être retrouvée chez les adultes également.
Il y a l'histoire du déni, Camille Pellet, le déni au fond qu'il est en train de se passer quelque chose. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses qui alors vous inquiète, je l'imagine bien, mais vous réveille la nuit, ça vous réveille la nuit, vous, Camille, sérieusement ou pas?
Non, mais en tout cas, beaucoup de camarades se réveillent la nuit pour ça. Je peux raconter une anecdote.
Allez-y.
Typiquement, l'autre jour, je sortais de mon école et j'allais au supermarché et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai l'impression d'être un peu en situation de détresse, un petit peu en perdition. Et je me suis dit, c'est totalement une forme de dissonance comme vous l'évoquiez à l'instant. C'est-à-dire que on achète, on continue à consommer, d'un autre côté, on va lutter, on va sur le terrain. Alors que sur le terrain, justement, on fustige la société de consommation, on fustige ces sociétés-là. Donc c'est vrai que le fait de toujours revenir à cette société, revenir à ce système, être dedans, moi ça me pose souci, et je pense que c'est le cas de plus en plus de jeunes, et c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de se déconnecter.
Anne Muxel, on l'entend dans ce que nous dit Camille, le côté je suis en train de vivre normalement, il faut bien que je consomme, il faut bien que je mange, etc. Et en même temps, je ne sais plus où est ma place, en fait, et je trouve ça intéressant parce que d'habitude, vous allez me dire si je me trompe, il y a une espèce de d'idéalisation, on va le dire comme ça, de la génération d'avant, des parents en tout cas, qui nous apprennent des choses, etc. On a l'impression que c'est ça qui s'est rompu aujourd'hui entre les jeunes et la génération juste avant, donc la nôtre en fait.
Oui, je pense qu'il y a, un grand trouble. Il y a aussi un grand trouble dans la transmission. Je pense que cette anxiété qui touche, bien sûr, au premier chef, les jeunes générations, parce que c'est leur futur direct qui est là, qui risque d'être mis en péril. Mais quand même, cette anxiété, elle est aussi dans la tête des générations qui les précèdent et de leurs parents. Il y a un grand sentiment d'impuissance, un grand trouble face à effectivement ce monde en transition, alors même que on ne trouve que peu de signes, de feuilles de route même de la part des politiques, de la part des décideurs, de la part des autorités économiques, de la part des entreprises pour arrêter finalement cette mise en péril en fait de déséquilibre de l'écosystème et le réchauffement climatique. Donc en fait, ce trouble, je crois qu'il est partagé par les générations, mais du coup, il y a une rupture effectivement qui se fait dans la transmission, c'est-à-dire que du coup, les aînés, que peuvent-ils, dès l'instant où ils ressentent cette impuissance, que peuvent-ils transmettre aux plus jeunes et en quoi peuvent-ils les aider ? Donc là, il y a vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Et qui déroute beaucoup. Et la clé, elle est quand même dans le camp des politiques, dans le camp effectivement des décisions politiques qu'il faut prendre.
Juste avant de revenir au standard, j'allais vous poser la question, Alice Desviol. Au fond, comment on l'apaise ce tourment-là ? Comment peut-on apaiser un tourment qui va bien au-delà d'un simple mal-être, quand effectivement celui qui peut apaiser le tourment éventuellement, c'est celui qui aura une politique un peu différente. Comment ça s'apaise en fait ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces moments-là ?
Alors en fait, faut bien voir que le problème de l'éco-anxiété, ce sont les causes de cette éco-anxiété. Et donc, je pense qu'il est quand même important de rappeler qu'il s'agit là d'une problématique, enfin, deux problématiques globales, systémiques, collectives, politiques, et qui ne peuvent pas être traitées ou résolues à l'échelle individuelle.
Oui.
Donc, c'est très important de ne pas reporter ces défis collectifs sur les seuls individus qu'on qualifie d'éco-anxieux.
Ou alors, c'est l'action, non, peut-être ?
Alors, bien sûr, l'action.
C'est de dire à celui que vous avez ou celle en face de vous, ben, agis, toi, à ta manière. Est-ce que c'est
bien sûr, donc ça,
une
c'est
manière
un des...
de... Est-ce qu'il est là, le placebo ?
Tout à fait, ça c'est un des leviers, on va dire, individuels pour effectivement pallier une certaine sensibilité. Ce qui, je pense, qu'il est important de préciser, c'est que par exemple, les adultes, dans leur réaction face aux préoccupations de leurs enfants ou des plus jeunes qu'ils côtoient, parfois peuvent les percevoir soit comme des sauveurs providentiels et vont donc se décharger de leurs responsabilités sur les épaules des plus jeunes, ou au contraire, vont les percevoir comme une certaine forme de déviation à la norme de par leur activisme ou de par leurs engagements. Et rares sont les adultes qui vont finalement prendre entre guillemets leurs responsabilités et s'engager aussi aux côtés des
plus jeunes. Et se moquer peut-être aussi, non mais
parfois
c'est bon.
Parfois se moquer, tourner en dérision.
Tu vas pas être déprimé parce que la terre va mal, enfin, et ça doit pas être facile d'entendre ce genre de choses.
Bien sûr, après je pense que c'est important de rappeler également que l'éco-anxiété, comme on en parle là, ce n'est pas une pathologie.
Bien sûr.
On parle même de plus en plus de réactions adaptatives face à tous ces désordres du monde, et c'est même quelque chose de finalement plutôt normal. Encore une fois, on ne naît pas éco-anxieux, on le devient. Et donc il y a quand même tout un rationnel scientifique et empirique derrière cette sensibilité-là et cet état d'âme. Et je pense que c'est important de le souligner ici ce soir.
Anaëlle est là et vous allez voir, elle va essayer de vous rassurer un peu, Camille. Bonsoir Anaëlle.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, rassurer, je ne sais pas trop. En fait, moi je vous appelais parce que c'est vrai que ce chiffre, je l'ai trouvé assez... Ça m'a attristée d'un côté de savoir qu'il y avait autant de jeunes qui se sentaient mal par rapport à la crise écologique. Mais je l'ai aussi trouvé assez, étonnant. Moi j'ai 24 ans et effectivement,
Vous êtes dedans, Anaëlle.
La crise écologique m'inquiète. Sur la biodiversité, le changement de climat, tout ça. Mais en même temps, je me demande un peu. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes ? Est-ce qu'ils se lèvent le matin en se disant que le monde est foutu et qu'ils sont vraiment qu'ils font la gueule toute la journée ? On pensera ça. Enfin, je sais pas. Pour moi, je vois pas l'avenir comme ça. Je pense que faut aussi dire que on a aussi une capacité d'adaptation, on peut aussi créer des systèmes plus résilients à nos échelles et en fait je sais pas, enfin moi je vois pas, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait bien se passer l'avenir si justement il y a 3 jeunes sur 4 qui est à moitié déprimés Et du coup, enfin, voilà.
Merci beaucoup, Anna. Ne pas baisser les bras, c'est ce qu'elle vous dit, Camille Pellet. Est-ce que vous avez, est-ce que vous baissez les bras parfois, sérieusement? Enfin, alors, je dis vous, pardon, hein, mais vous êtes le jeune aussi de ce que vous entendez autour de vous, de ce que vous vous dites les uns les autres. Est-ce que des fois vous êtes, vous baissez les bras réellement, ou est-ce que, comme on disait tout à l'heure, l'une des clés est dans l'action, et quelle qu'elle soit, en fait, hein?
Bah, la clé est évidemment dans l'action, mais je pense que le mouvement climat a été créé en 2019 avec les premières marches, et je pense qu'on n'a jamais baissé les bras, parce que si on avait baissé les bras, le mouvement n'existerait plus aujourd'hui. Donc voilà, il y a des jeunes qui se sont battus, qui se battent, qui, je pense, sont encore beaucoup plus anxieux que moi, je ne le suis, et je pense qu'ils sont à féliciter. Mais d'un autre côté, moi-même, si je veux revenir à une échelle très personnelle,
allez-y, ouais.
Je suis assez pessimiste sur l'avenir. Mmh. Et c'est vrai que quand je me bats, je me dis que je joue un petit peu la carte de la dernière chance. Évidemment, je vais continuer à me battre, parce qu'il n'y a pas d'autre cause plus juste à mon sens actuellement, voilà. Et donc je suis pessimiste, mais je vais continuer à lutter. Je sais que c'est un peu paradoxal, et on me le dit souvent, mais je pense que c'est
le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté.
Voilà, ben il faut se le faire tatouer. Ben, puisque vous avez un plâtre, on va pouvoir l'écrire sur votre plâtre. Vous savez pourquoi je vous pose la question aussi, et à tous les deux d'ailleurs, et à Anne Muxel également. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, depuis deux semaines, il y a des jeunes qui sont en grève de la faim en ce moment, en grève de la faim climat en Allemagne. Face au Parlement. Et je m'interrogeais sur ce que ça voulait dire pour vous, Camille, d'abord, cette espèce de chose de la dernière chance qui, on est d'accord, ça sert à rien, en fait. Mais à ce moment-là, ces jeunes-là ont eu le sentiment que c'était le dernier recours, en fait. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ça.
Déjà, c'est un peu triste de dire que ça ne sert à rien. Parce que si le fond, c'est qu'ils sont quand même, peut-être qu'ils sont pessimistes, mais il y a une forme, il y a un mélange d'espoir et de pessimisme à la fois. C'est-à-dire que s'ils luttent et qu'ils arrêtent de se nourrir, c'est que au fond d'eux-mêmes persiste une forme d'espoir, d'espoir que déjà ça fasse le tour des médias. Ça, c'est un des points essentiels, c'est que les médias en parlent de plus en plus. Et j'ai envie de dire de mieux en mieux, si on accepte l'audiovisuel, enfin la télé. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas...
Quand je dis que ça sert à rien, c'est pas ça qui changera le climat, en fait, et
oui,
qui fera modifier une politique d'un coup. Mais en effet,
ça fait partie des modalités d'action. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres actions qui sont peut-être un peu plus collectives que celle-ci, qui existe.
Alice Desbiol, là-dessus, est-ce qu'on est aussi face à des jeunes gens? Alors, pardon, il y a aucune méchanceté là-dedans. C'est aussi la génération Greta Thunberg, où l'activisme vraiment chez Greta Thunberg, c'était j'arrête, je fais plus d'études, je ne fais plus rien, parce que de toute façon, à ce stade, la priorité est ailleurs, et de toute façon, vu le monde vers lequel on va, ça ne sert à rien. On a ces jeunes gens qui font une grève de la faim devant le Bundestag. Est-ce qu'on risque aussi d'être à ce genre d'extrémité-là? Ça devient extrêmement dangereux quand même.
Alors déjà, je pense qu'il est important peut-être de préciser que cette étude, elle n'est pas forcément représentative de la jeunesse et des jeunes.
On est d'accord. Clairement, simplement 10 000, c'est beaucoup. C'est bien fait quand même, honnêtement. On se dit que c'est assez bien fait. Après, c'est ce que je disais au début, effectivement, je vais vous laisser finir. Il y a des gens comme Camille qui sont là, il y a des jeunes philippins qui ont des préoccupations qui sont tout autres, des jeunes brésiliens qui voient brûler l'Amazonie, etc., etc. Enfin, chacun devant sa porte, effectivement, a une perspective très différente. Allez-y.
Mais effectivement, de toute façon, le réchauffement climatique et tous les périls environnementaux sont clairement une cause de préoccupation de plus en plus importante pour tous les Français, hein, pas que les jeunes, également les adultes. Et quand on regarde les données du dernier baromètre de l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, on voit que le réchauffement climatique, c'est vraiment la troisième préoccupation. Et en tout cas, pour 15% des Français, c'est considéré comme le premier problème et la première préoccupation. Donc clairement, il y a de plus en plus une sensibilité et une préoccupation très forte sur ces enjeux.
Il y a une sensibilité, mais qui emmène parfois, je pensais à ces gamins qui sont en train de faire la grève de la faim devant le Bundestag ou à côté, qui emmène là. Est-ce que c'est ça aussi la suite, en fait, et qu'il va falloir également gérer, parce que dans l'idée que de toute façon il ne pourra rien se faire, voilà la seule réponse que ces jeunes-là pourront trouver?
En fait, je pense que là, c'est la réponse que eux apportent à leurs préoccupations, à leurs tourments, et c'est leur manière à eux de poser le débat dans de poser le sujet dans le débat public et de s'en emparer. Et on peut comprendre que une problématique qui va concerner à ce point-là notre intimité, qui va bouleverser à ce point-là nos vies et potentiellement nos sociétés, cela puisse inquiéter des jeunes qui, dans un futur pas si éloigné que ça, vont être directement impactés. Donc oui, j'entends complètement que cela puisse choquer. Après, personnellement, je ne suis pas là pour juger de leur décision, mais cela traduit en tout cas chez une certaine fraction de la jeunesse un sujet, à quel point en fait c'est un sujet de préoccupation très fort, et d'où l'intérêt aussi que les personnes en responsabilité et que même nous collectivement on prenne la mesure de cet enjeu, ne serait-ce que par souci en fait de prendre soin de nos enfants. Et là, de plus en plus, il y a quand même une inversion des valeurs où on fait peser sur les jeunes une responsabilité qui n'est pas forcément de leur ressort.
Et un gap générationnel en mauvais français qui peut-être est en train de se creuser, on le verra dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Béatrice. Bonsoir Béatrice.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question et mon commentaire. Moi, je suis un peu plus âgée que la cible dont on parle ce soir. Par contre, j'ai aussi connu cette anxiété. Et en fait, la solution pour moi, ça a été de m'engager concrètement, de manière bénévole, dans des associations. Et ce qu'on constate aujourd'hui, on est beaucoup à faire ce constat, c'est qu'il n'y a pas de jeunes, en fait. Un exemple, ce week-end, on a fait un événement avec en réunissant des entreprises, des associations qui travaillent autour de ces problématiques. Il n'y avait pas de jeunes. Il n'y a quasiment pas de jeunes. Donc pourquoi c'est si difficile de s'engager? Est-ce que ça prenne de temps, de conviction, de voilà? Je comprends pas.
Eh ben, on va poser la question à notre jeune Camille Pellet. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est à quel moment on se retrouve. En effet, on parlait de gap générationnel à un moment. Votre forme d'activisme est très très différente de celle de Béatrice. Vous avez choisi d'autres voies et d'autres également. À quel moment on se retrouve? Est-ce qu'on se retrouve réellement, ou est-ce que, au fond, y compris sur la manière d'agir et sur l'impératif de la rapidité à agir, on se retrouve pas d'une génération à l'autre, on se retrouve plus?
Je pense qu'on peut se retrouver sur certains points, mais que sur la notion de radicalité, il y a effectivement un gap, pour reprendre votre mot, un fossé qui s'est creusé entre la génération de nos parents et notre génération à nous. Et je pense que c'est la génération vraiment des 16-25 ans, et ça se limite aux 25 ans, parce que au-delà, même des gens qui ont commencé à rentrer dans la vie active, ces gens-là, il y a encore un autre fossé qui nous sépare de ces gens-là.
Radical, ça veut dire quoi, selon vous, en fait? À quel moment on la place, cette frontière-là? C'est compliqué, mais ça veut dire quoi, des actions plus radicales, en fait?
C'est un peu impensif de dire radical, c'est vraiment prendre le problème à la racine, c'est-à-dire, moi, enfin, j'ai fait tout un cheminement où, typiquement, je suis rentré à Youth for Climate et je soutenais encore certains candidats politiques, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment sur le terrain, à l'échelle locale, que ça se jouait. Et j'ai lu beaucoup d'auteurs, etc., et qui m'ont convaincu dans mes idées. J'ai fait également, je suis allé dans des ZAD, j'ai des camarades qui vont régulièrement dans plusieurs luttes sur le terrain, en ce moment, il y a eu les gonesses en début d'année, il y a également les squats qui sont une autre forme de radicalité, c'est-à-dire qu'on s'empare d'un bâtiment et on y impose des idées politiques particulières, etc. Donc c'est ces formes de radicalité qui passent par l'action et par la réappropriation du vivant et voilà.
Avant de retourner au standard, Anne Muxelle, moi j'aimerais bien vous entendre sur ce fossé générationnel d'une certaine façon. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Camille, c'est que le fossé commence très tôt. Il commence entre ceux qui rentrent dans la vie active, donc on a l'impression qu'on pousse une porte qui est un peu sans retour et qui nous met sur un rail adulte, on va dire, et puis la génération juste avant.
Oui, mais ce fossé générationnel, il s'inscrit quand même dans un contexte plus large qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire d'une crise profonde de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'un nombre de plus en plus important de citoyens considèrent que les rouages de la démocratie représentative ne permettent plus finalement de changer les choses, ne permettent plus aux citoyens de se faire entendre. Donc on voit bien que les citoyens, jeunes ou moins jeunes du reste, cherchent d'autres voies d'expression, d'autres voies de participation citoyenne. Et c'est vrai pour toutes sortes de questions, qu'il s'agisse des questions sociales, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, ou des questions écologiques. On ne fait plus confiance aux institutions représentatives, on ne fait plus confiance aux rouages de la démocratie représentative pour changer les choses dans l'urgence avec laquelle il faut effectivement les changer, dont d'autres formes sont cherchées.
Dans l'étude, c'est le mot trahison qui est employé, en fait. On leur a fait confiance, mais on a un sentiment de trahison, en fait.
Oui, il me semble que c'est très fort. En tout cas, c'est un mot très fort. En tout cas, un sentiment de déception. Les politiques sont aujourd'hui confrontées à cette défiance. Et les partis écologistes aussi, du reste. Et j'entendais tout à l'heure une auditrice qui disait, moi je milite dans une association, on organise des actions, etc. Et les jeunes ne sont pas là. C'est vrai que du coup, il y a à l'encontre de toutes les formes d'organisation, quelles qu'elles soient, une grande défiance au profit, effectivement, d'organisations spontanées, autonomes, entraînées par les jeunes eux-mêmes, d'ailleurs, au travers de leurs propres formes d'action, y compris les plus radicales que nous avons évoquées, mais dont l'objectif est de se faire entendre et de participer à cette prise de conscience, parce qu'on a beaucoup parlé ce soir d'anxiété. Ah oui. Bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi la question de la prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est aujourd'hui assez générale, assez unanime et confrontée à l'impuissance, effectivement, face aux décisions politiques qui ne se prennent pas.
Gabriel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Gabriel,
bonsoir, on vous écoute.
Merci de prendre mon intervention et pour toutes ces interventions. Enfin, vos intervenants qui ont qui parlent de manière très très terre à terre, je trouve très intéressant. Voilà, j'ai essayé d'être concret, désolé.
Non, je vous en prie, allez-y, pouf pouf.
En fait, oui, moi je voulais vous parler, je suis passé aussi par une phase où j'étais très affecté par mon éco-anxiété et j'en suis un peu remis, je dirais, mais je pense que ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai pris conscience du fait que mais c'était très compliqué, en fait, globalement, pour nous, en tant qu'individus, mais globalement en tant que société, de prendre en compte des objectifs de très long terme. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on n'était pas capable, dans la société qu'on avait construite, dans les institutions, dans les structures qu'on avait mises en place, de prendre en compte avec suffisamment d'importance, ou l'importance nécessaire, quoi, le long terme. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup affecté aussi, quand j'ai pris conscience de ça, et quand j'ai pris conscience du fait que c'était quelque chose que je pouvais voir aussi moi-même personnellement dans mes propres défauts, en fait. J'ai aussi ce défaut-là. Et donc oui, je pense que en effet la solution est dans l'action au final, mais c'est des thématiques auxquelles il faut qu'on commence à répondre et qu'on s'empare. Ces problèmes plus larges, en fait, de biais cognitifs, le changement climatique, la crise environnementale, c'est des problèmes qu'on va avoir dans les siècles à venir, mais il y en aura d'autres probablement qui seront liés à ces mêmes difficultés humaines. C'est même biais cognitif et voilà, et donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est, je dirais, le sujet qui m'intéresse.
Et Gabriel, vous disiez tout à l'heure que vous êtes passé par une phase d'éco-anxiété, mais que vous en êtes remis. Moi, je suis assez curieuse de savoir comment, en fait, comment vous êtes.
C'est un peu comme si j'avais pris conscience. Enfin, c'était, disons, la partie un peu pessimiste, négative, où je me levais en disant que tout allait mal et que, enfin, il y avait rien à faire. Et je me suis rendu compte que j'étais encore jeune, que j'ai un potentiel d'action à l'avenir, c'est-à-dire j'ai encore normalement quand même pas mal d'années à vivre, j'ai conscience du sujet, je me connais, je suis pas bête non plus, enfin je suis peut-être capable de faire des choses, en fait, et que cet état d'esprit, c'est comme si progressivement j'avais réussi à intégrer le fait que ça allait pas m'aider à avancer, ça allait pas changer les choses. Et maintenant, j'essaye de décider ce que je fais en étant pleinement conscient du long terme et en intégrant tout ça et en me disant que voilà, maintenant je suis.
Ben on est content.
Capable d'agir, peut-être.
On est content que vous alliez mieux. En tout cas, que vous soyez plus capable d'agir, Gabriel. Merci beaucoup. Ce que j'aime dans ce que dit Gabriel, en creux, Camille Pelé, c'est comment on fait pour se projeter dans l'avenir? Comment vous vous projetez? Est-ce que vous vous imaginez, vous, dans 10 ans, en fait? C'est qui Gabriel Pelé, Camille Pelé dans 10 ans?
Bah, souvent on me dit, il faut que tu continues tes études, que tu ailles jusqu'au bout, parce que dans 10 ans, il faudra quand même un certain confort de vie, etc. Mmh. Enfin, ça on me le répète depuis que j'ai 10 ans, en fait, depuis que j'ai 8-10 ans. Mais dans 10 ans, en fait, je ne me vois pas, tout simplement, parce que l'écologie actuellement, la crise climatique, impose de voir les choses sur le court terme. et enfin on le voit. On parle souvent de planification sur long terme, sauf que si on n'agit pas maintenant, eh bien, il y aura pas de dans 10 ans, en fait, tout simplement. Donc, je m'inscris ici dans les discours, je n'aurai pas d'enfants, etc., parce que je vois tout simplement pas dans 10 ans. Là, maintenant, j'agis maintenant sur le terrain, et après, on verra.
Alice Desbiol, et c'est ça qui est probablement difficile, peut-être plus difficile que dans nos générations précédentes, se projeter, s'imaginer, avoir envie de quelque chose dans 10 ans. C'est pas seulement parce que quand on est jeune, on sait pas trop encore, et c'est bien normal, mais c'est aussi surtout où sera le monde aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, ça, que vous entendez?
Oui, complètement. En fait, l'éco-anxiété dont on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment caractérisé par une dimension temporelle très forte, à savoir une projection, une anxiété anticipatoire, une projection dans un avenir qui est perçu effectivement comme compromis, comme menacé, voire comme potentiellement inexistant. Donc ça, c'est une dimension très forte de l'éco-anxiété, la dimension temporelle. Après, et Gabriel incarne un petit peu ça finalement à mes yeux, c'est qu'on peut très bien porter un regard lucide et désabusé sur le monde, pour reprendre les mots de Kundera, et pour autant réussir à transcender, à dépasser cette éco-anxiété ici et maintenant, pour se réapproprier en fait notre place dans le monde, nos responsabilités aussi, et effectivement en tant qu'humain, on est libre avec nous-mêmes, même au milieu d'une crise environnementale et climatique qui potentiellement nous dépasse. Donc c'est normal qu'il y ait une forme d'anxiété persistante et résiduelle, elle doit être acceptée. C'est une conséquence naturelle à la perception de ces enjeux, aux projections aussi du GIEC, par exemple, qui vraiment, il y a des scientifiques qui parlent de planètes inhabitables, potentiellement passées un certain niveau d'emballement de différents paramètres. Donc c'est complètement normal. Après, l'important, c'est d'assumer ses responsabilités, ce que font paradoxalement peut-être plus les jeunes que les personnes effectivement au pouvoir, notamment, ou les adultes. Mais ça n'empêche pas cette sensibilité-là et ce rapport au monde, aux autres et à soi-même, ça n'empêche pas de s'épanouir et de se réaliser pleinement, même si ça peut sembler peut-être paradoxal de prime abord.
Camille, qu'est-ce que vous faites comme étude?
Je suis à Sciences Po.
D'accord. Le sens de ma question, c'était jusqu'à quel point et en quoi l'une des solutions et l'une des actions, c'est aussi d'orienter ses études en fonction de ce qui sera utile précisément dans ce qui vous intéresse, le climat, ce qui nous intéresse tous, le climat, etc. Est-ce que ça fait partie aussi des choses il faut que je me réoriente vers quelque chose qui sera directement utile, ou peut-être que vous y allez d'ailleurs?
Oui, après, les études, on l'a un petit peu sacralisé. On a dit que c'était en fait la voie un peu finale dans le continuum de la vie de toute personne, sauf qu'on peut très bien aussi apprendre avec d'autres personnes qui ne sont pas des universitaires, par exemple, sur le terrain. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris de mes mains et de personnes qui étaient juste des maraîchers qui ont fait ça toute leur vie, et j'ai honnêtement plus appris là-bas qu'avec des gens de renom à Sciences Po.
On va retrouver Pauline au standard. Bonsoir, Pauline.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de prendre mon témoignage. J'écoute avec intérêt le début de votre émission. Donc moi, je suis trentenaire, donc juste après la génération que vous évoquez, la tranche 15-25 ans.
C'est pas grave, Pauline, vous pouvez rester.
J'ai le droit. J'ai été très très active dans des associations, Citoyens pour le Climat, etc. Les dernières années. Aujourd'hui, moi, en tant que trentenaire, j'ai un désir de maternité. Cependant, en fait, aujourd'hui, je ne me vois pas mettre au monde un enfant dans un avenir aussi incertain, écologiquement parlant, mais aussi sur le plan social. On voit de plus en plus d'inégalités, de haine. On sait que, il y a de nombreux scientifiques qui ont démontré que, avec le réchauffement climatique, allait aussi venir de plus en plus de migration, etc. Et tous ces aspects-là, en fait, on voit qu'on est dans un monde qui va être qui va générer de la haine, et mettre au monde un enfant dans l'avenir de haine. Je trouve que ce serait très égoïste de ma part.
Vous n'y allez pas. Pour l'instant, en tout cas, vous n'y allez pas.
Contre mon désir, mais non, je ne souhaite pas y aller parce que je ne veux pas être égoïste.
Merci, Pauline. Vous non plus, Camille, vous avez répondu déjà à cette question, vous en êtes sûre. C'est quelque chose que vous avez acté. Et quelle est la raison, en fait? Est-ce que c'est une raison purement environnementale, en disant pas dans ce monde? Est-ce que c'est aussi parce que le monde tel que nous le décrit Pauline et qui lui fait peur pour l'avenir est plus violent, plus en confrontation? C'est quoi la vraie raison pour vous?
Enfin, évidemment, il y a des raisons écolo, bien entendu, mais aussi des raisons, j'ai simplement pas envie de mettre en monde, du coup, ça sera pas moi qui va mettre en monde l'enfant.
Certes.
Voilà. Mais j'ai pas envie de participer à, enfin, de donner vie à un enfant qui, n'aura pas tout simplement d'avenir.
Rapidement, cette question d'Éric qui est à Mérignac et qui dit oui, mais enfin, on parle beaucoup du fait que les jeunes se sentent très concernés par le climat, mais les jeunes sont connectés, ils sont friands de mode, et je trouve paradoxal le fait de se soucier de l'environnement alors qu'ils consomment des produits peu écolo. Est-ce que vous êtes devenu un jeune décroissant ou pas? Est-ce que vous avez quand même un téléphone portable, un ordinateur, évidemment, là-dessus?
Oui, évidemment, c'est là où je me dis que je suis dans un processus de déconstruction, mais sur le plan personnel, c'est-à-dire que petit à petit, je vais tendre vers une déconnexion du système, et ça, je pense que c'est important. Après, il faut bien se dire que la jeunesse qu'on représente, nous, à Youth for Climate et dans d'autres mouvements écolos, c'est des jeunes blancs, embourgeoisés, qui font des études, qui en ont fait, et ça ne sera pas des jeunes de minorité de genre ou de race, par exemple.
Et c'est bien de le dire et de le reconnaître, parce que c'est une réalité. Est-ce que ça veut dire que à terme, la chemise que vous avez, qui est une chemise de marque, vous l'enlevez, le téléphone portable, vous le jetez, sincèrement, est-ce que ça veut dire ça?
Je précise que j'ai acheté tous mes vêtements en friperie déjà, pardonnez-moi. Et j'aimerais surtout dire, enfin, malgré le discours que je porte, que les jeunes doivent continuer à s'engager malgré tout, même s'il y a du pessimisme, il y a aussi beaucoup de joie militante. D'ailleurs, on a lancé un projet qui s'appelle Youth Now, aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie, qui est un projet qui est une grande consultation nationale pour les jeunesses, qui vise à trouver les solutions fédératrices autour du climat.
Qu'on va chercher sur le site de Youth for Climate. Et voilà. C'est facile. Merci beaucoup.